deux exemples, les frères avec leur épouse ont été appelés au ministère, moi aussi, n'ayez pas peur, je n'ai pas pointé à la MPE. Donc les deux frères, là, pour ne parler que d'eux, pas parler de moi, ils ont été appelés au ministère, voilà. D'autres sont appelés à partir en mission, d'autres sont appelés à être anciens dans l'Église, d'autres sont appelés à être anonymes au sein même de l'Église et qui sont de véritables exemples pour les pasteurs, des hommes et des femmes qui sont de véritables colonnes dans l'Église. Et tout à chacun, on peut être appelé eh bien, simplement dans son quartier, auprès de son boulanger, du charcutier, enfin tout. Voilà. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs pour Christ. Mais avant de pouvoir servir Dieu dans un service quelconque, il y a un temps de préparation. J'ai le souvenir, lorsque j'étais très jeune, lorsque j'étais catholique, à l'âge de 15-16 ans, je suis venu à l'Évangile, on m'a parlé de Jésus, et lorsque j'étais enfant, je voulais devenir moine. Anna, je sais où tu habites et j'ai ton numéro de téléphone. Non, ne souris pas, c'est pas la peine. Oui, ça se voit pas à ma tête, mais bon, c'était comme ça. Donc, j'étais catholique et je voulais devenir moine. Et le prêtre m'avait dit, écoute Stéphane, le jour que j'aurai le temps, je t'emmènerai voir les moines de Saint-Vendry. Et lorsque je suis venu au contact de l'Évangile, où des chrétiens, un chrétien m'a dit comme ça en quelques mots, tu sais Stéphane, Dieu peut tout pour toi. Ça m'est resté. Et en fait, je me suis rendu compte que Dieu était si près. Si près, et non pas assis, debout, assis, ça n'a rien à voir avec le chant, assis, debout, on prie, on se relève, avec des dogmes, enfin voilà, des choses qui sont bon. Voilà. Et quand on est ouvert, quand Dieu ouvre notre esprit aux choses, aux réalités spirituelles, on comprend qu'il y a de graves erreurs, bon, et de lacunes. Alors quand je suis venu à l'Évangile, je me suis dit, moi qui avais un cœur pour devenir moine, je me suis dit, maintenant que je suis là, j'aimerais devenir pasteur ou missionnaire. C'était naïf, j'étais naïf. Mais enfin, il y avait le cœur pour ça, puisque aujourd'hui, voilà. Mais pour dire que, en fait, avant de devenir pasteur ou missionnaire, il fallait un temps de préparation. Et comme pour chacun d'entre nous, et peut-être que ce matin, ça s'adresse à quelqu'un. En fait, peut-être que vous avez reçu quelque chose dans votre cœur de la part de Dieu. Et peu importe votre âge. L'appel de Dieu ne se limite pas simplement à des jeunes hommes, à des jeunes filles, même si selon la parole, il n'y a que des hommes qui prêchent la parole, des prédicateurs, des pasteurs, mais des femmes peuvent devenir aussi des femmes de pasteurs, voire même missionnaires. Donc ça ne se limite pas simplement aux hommes, c'est même pour les femmes, pour les dames. Et donc, l'appel au ministère, il y a un temps de préparation. Et pas forcément un temps pour rentrer dans le ministère. Demain, vous pourriez rentrer comme aumônier de prison, d'hôpitaux, du corps des armées. Peut-être que demain, vous pourriez devenir, sans que ça soit officialisé, aumônier dans votre usine. En fait, être des piliers, des points de repère, des réflecteurs au sein même de ce monde. Christ étant la lumière, nous sommes des lumières, mais nous sommes des réflecteurs de la grâce de Dieu, de la lumière de Christ dans notre vie. Et d'avoir peut-être même être aumônier, je dirais, vous entendez, vous comprenez ce que je dis aumônier, et être des aumôniers dans notre quartier, au sein même de notre famille. Nous avons eu 8 baptêmes. Sur les 8, il y en a eu, je crois, 7 qui ont eu affaire aux moniteurs. Aux monitrices. Il faut avoir une disposition de cœur pour pouvoir servir Dieu comme responsable dans les écoles du dimanche. C'est 7 enfants, peut-être même le 8e, je ne sais plus, sont issus, en fait, de l'école du dimanche. Voyez, le travail qui a été fait. Et il faut avoir une disposition de cœur. Et avant de pouvoir arriver à entre guillemets, une maturité pour servir Dieu, il y a tout un travail qui nous échappe peut-être, mais il y a un travail que Dieu veut faire en nous. J'aimerais ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Et j'ai pris comme exemple un homme que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Joseph. On va lire juste deux versets, Genèse 41, verset 50. Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Amen. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que de voir la précision dans la chronologie de cette histoire. Et cette chronologie est très importante ici et à étudier, parce qu'elle nous montre ici le processus du rétablissement d'une personne avant que cette personne soit au service entre les mains de Dieu. Pour faire un petit rappel de l'histoire de Joseph, Joseph est né dans une famille où il y a un père, et à cette époque ça se pratiquait comme ça à tort, puisque la Bible dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera » à sa femme, et pas à ses femmes, à sa femme. Voilà. Et ici, Joseph a son père qui, en fait, a, pour l'histoire, un jour, bon, je vais brûler les étapes parce que ça va être trop long, s'est retrouvé avec quatre femmes. En fait, deux femmes, enfin, quatre femmes, bon, voilà, je vous fais simple. Hein. Et Joseph, en fait, il est issu de la femme que son père a aimée. Alors, des fois, on peut avoir l'impression que c'est... pas logique, mais en fait, son père a voulu une femme qui, Rachel, merci, hein, merci de m'avoir aidé, vous verrez quand vous aurez mon âge, Rachel, et en fait, Joseph a donné, Jacob a donné le droit d'aînesse à Joseph, c'est une logique. Et puis voilà que Joseph a été le sujet de jalousie auprès de ses frères, 11 frères qui ont été jaloux, plus ou moins jaloux. Et voilà que Joseph a été la risée, et Joseph a reçu cet appel de Dieu. Il savait qu'il avait quelque chose sur sa vie, qu'il allait marquer sa vie. Et Joseph a laissé les choses se faire. Et puis un jour... son père, demandant des nouvelles de ses frères, va envoyer son fils Joseph, le petit dernier, l'avant-dernier, pardon, après lui c'est Benjamin, l'avant-dernier, et les frères, quand ils vont le voir arriver, ils vont dire en quelques mots, voici le faiseur de songes, et ils vont le prendre, vont le mettre dans la citerne, et ils vont faire croire une histoire macabre. Ils n'étaient pas tous dans le même état d'esprit, mais ils ont fait croire une histoire macabre à leur père. Il y en a qui voulaient le tuer, et d'autres... on pensait que c'était plus sage de tuer un animal, de prendre son vêtement qui était unique, multicolore, qui montrait que c'était le fils, eh bien, le fils aîné, le fils de, pas le fils aîné, mais l'héritier. Et ils ont badigeonné son vêtement de sang. Et pendant des années et des années, ils ont fait croire au papa que le fils était mort par une bête féroce. L'histoire veut que le fils Joseph est vendu aux Ismaélites, celui-ci est vendu sur le marché des esclaves, un homme le récupère, un homme l'achète, M. Potiphar. Sa femme avait des yeux sur Joseph. Pendant que M. Potiphar n'était pas là, M. Potiphar voyait que ses affaires prospéraient. Madame Potiphar a voulu coucher avec lui. Lui s'étant refusé, il a fui. Et Madame Potiphar a voulu faire croire qu'elle... que lui l'avait violenté, s'est retrouvé en prison. En prison, le geôlier voit que Joseph avait quelque chose de particulier, il lui laisse les clés des baumettes. Et puis, là-bas, il y a deux gars, les chansons et les panetiers, qui sont mis dans la prison du roi. Ils font tous les deux des songes, et ils n'arrivent pas à expliquer les songes, qui étaient d'ordre spirituel. Et Joseph va leur révéler les songes, en précisant que c'était Dieu qui révélait les songes. Et Joseph va craquer à un moment donné, puisqu'il va dire « parle pour moi au Pharaon » et pendant 2 ans, il sera oublié. Voilà que Pharaon fait un songe, il fait des rêves et en fait, il a du mal à expliquer. Les vaches maigres et les vaches grasses et les vaches maigres, les grains maigres et les grains gras. Et puis voilà que Joseph, eh bien, va être sorti de prison. Mais avant d'être sorti de prison, pourrait devenir le ministre des finances, le ministre des économies, le ministre, le premier ministre, il était juste en dessous de Joseph. Il va se passer ce qui s'est passé, c'est qu'avant la famine, Joseph a eu deux enfants. Ces deux enfants ont une histoire, ou plutôt leur nom figure ici, raconte l'histoire de Joseph. Le premier enfant que Joseph va avoir, c'est Manassé. Manassé signifie, et vient d'une racine qui veut dire « oublié ». Et plus simplement, Dieu va accorder à Joseph une famille en Égypte. Il lui a donné des objets d'affection qui remplacent enfin pour son cœur la maison paternelle. Pendant des années, Joseph va être coupé du sein de sa famille. Et avant de pouvoir devenir le ministre, devant devenir le ministre des économies et des finances, pour pouvoir donner, bien de faire survivre l'Égypte, et par écho, et bien de donner de la vie, de la nourriture à sa propre famille, qui, je rappelle, viendront 70 personnes viendront et bien en Égypte, enfin, pour devenir le leader de l'histoire d'Israël, Joseph va être obligé de régler des affaires dans sa vie. Joseph est un homme plein de souffrances, plein de douleurs, un homme abandonné, un homme qui ne comprend pas le pour qui, le pourquoi des choses, un homme qui a été trahi par sa famille, par ses frères, un homme qui est abandonné, un homme qui n'a plus de nouvelles. Vous êtes au courant que les SMS, les mails n'existaient pas à l'époque. Un homme qui a une coupure radicale avec sa famille. Un homme qui s'est fait tout seul. Un homme qui a appris à crier vers Dieu. Lorsque je lis l'histoire de Joseph, lorsqu'il était en prison, avec Madame Potiphar, Potiphar voit que les affaires fructifient en prison. Il y a une question que je me suis posée. Est-ce que Joseph, il avait conscience que Dieu se servait de lui, puisqu'il avait les échos, il avait les témoignages? Est-ce que Joseph ne s'est pas dit « Dieu se sert de moi, mais... est-ce que j'en suis le bénéficiaire aussi? Est-ce que Dieu me rend le pour qui je suis en train de servir? Le pourquoi je suis en train de servir? » Puisque Joseph dira, parle pour moi au Pharaon. Où en était-il, Joseph, avec sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il était au creux de la vague? Et peut-être que vous êtes au creux de la vague, que vous ne comprenez pas le pour qui, le pourquoi des choses, mais Dieu vous appelle à régler votre Manassé dans votre vie, avant de pouvoir être utile entre ses mains. Vous ne pourrez pas servir Dieu avant d'avoir réglé votre Manassé dans votre vie. Votre Manassé, c'est votre souffrance. C'est ce qui rappelle d'où vous venez. Votre Manassé, c'est vos piqûres de rappel. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Est-ce que vous vous rendez compte que Lafayette a voulu que la journée du 14 juillet soit marquée depuis 1789 ? Pour rappeler la prise de la Bastille, mais aussi l'union de la nation, depuis 1789. Et par rapport au 14 juillet, eh bien, chaque année, on se sert du 14 juillet pour rappeler, eh bien, en 39-45, on a eu la libération aussi. En fait, c'est le moment, le moyen pour, eh bien, faire défiler les troupes glorieuses avec leur étendard et avec les médailles, les uniformes multicolores, les engins bien briqués, les pneus bien cirés, parce que je crois qu'on met de la cire sur les pneus pour que ça donne bien. L'aviation, tout est calculé. Mais depuis 1789, on se rappelle sans cesse. Vous savez, il a fallu que Joseph arrive à dire « Maintenant, il faut que j'arrête de faire mon 14 juillet dans ma vie. » Pour pouvoir avancer, il faut arrêter son 14 juillet dans sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez avancer avec Dieu, alors il faut faire cette rupture avec votre passé. J'ai rencontré une jeune femme avec son mari cette semaine. Cette jeune femme était en larmes, tout amaigrie, en larmes. gens qui rient, gens qui pleurent. Mais lorsque je suis arrivé, elle pleurait. Son compagnon qui était là, il ne savait que faire. Et on apprend que bien, cette jeune fille, depuis la veille du midi, elle ne mangeait pas. Des choses non réglées. Une vingtaine d'années. Et tellement dans le désarroi. Un mal-être. Une tristesse. Hospitalisée. Hospitalisée pour trouver une solution pour cette personne. Hospitalisée parce que cette personne, eh bien, est là et les gens ne savent que faire avec elle. Et combien d'hommes, de femmes, en France, à Martigues, sont en grande souffrance. Une fois, les pompiers, ils ont été appelés. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais bien, par rapport à cette histoire que je vais vous dire, mais en fait, ça dévoile vraiment une grande misère. Quelqu'un a appelé les pompiers parce que pour tentative de suicide. Les pompiers arrivent en bas, ils sonnent à l'adresse, et la personne répond en quelques mots, dit « Non, ben, j'ai pas envie de me suicider tout de suite. » Alors, bien sûr, dit comme ça fait sourire, mais vous comprenez un peu la misère. J'ai pas envie de me suicider tout de suite. Un autre appelle les pompiers, et les pompiers, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils apprennent une chose, c'est qu'un homme d'une cinquantaine d'années s'était mis à l'esprit de se faire des incisions sur le bras entre l'appel des pompiers et l'arrivée des pompiers. Alors, je ne sais plus, toutes les quelques minutes, alors il se faisait des incisions, et puis à chaque fois, alors les pompiers sont arrivés, on dit « Bon, ça n'a pas été profond, mais enfin pour dire que... » Les gens sont déconnectés. Les gens sont dans une profonde misère. Et peut-être que vous êtes dans votre misère. Alors bien sûr, pas à ce niveau-là. Mais vous avez peut-être votre Manassé à vous. Et sans cesse en train de vous rappeler d'où vous venez, ce que l'on vous a fait. Il faut passer cette étape. Il vous faut passer cette étape. Ne vivez plus votre 14 juillet. Vous savez qu'en décembre, bon, souvent, d'une manière assez générale, les gens sont assez contents la période de Noël, décembre, les magasins sont en fête, enfin, ils espèrent être en fête, enfin, ils se mettent en fête, bon, en espérant de faire des sous. À Fos, on a un voisin au-dessus de l'église, sur la gauche, quand on arrive à l'église. Tous les ans, il y a le droit. Alors, c'est Halloween, c'est Noël, enfin, on sait quelle période qu'on est, hein, si on oublie, on sait. Alors, tous les ans, à Noël, il met sa terrasse, voilà. Donc, c'est un moment de fête. Mais vous savez que, puis les gens sont contents, ils se retrouvent en famille. Mais vous savez qu'il y a des gens, ils ont horreur de décembre. Pour eux, mais ce n'est pas un moment de fête. Hein. Pour eux, c'est un temps de tristesse, parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Et encore, si ce n'est pas en décembre, en plus. Donc le monde est en souffrance. Et il fallait que Joseph fasse son deuil. Et pour faire son deuil, Dieu lui a donné cet enfant en disant, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Acceptez que Dieu vous guérisse. Acceptez que Dieu remplace vos années perdues. Il vous faut faire votre deuil. Ne revivez pas, ne déterrez pas les morts, vos vieilles histoires qui vous empêchent en fait d'avancer, de progresser, et en fait qui vous empêchent d'être guéri et de glorifier Dieu dans votre vie. Ne soyez pas un Bernard l'ermite. Et Bernard l'ermite donne l'impression d'être fort, d'être robuste. C'est ce que c'est qu'un Bernard l'ermite. C'est un pseudo-crabe qui, un jour, eh bien, va fouiner une coquille. Hein, voilà, il se fait sa vie dedans. Et puis, à un moment donné, il grandit, alors il est obligé de changer de coquille, puis il mute. Mais vous savez le problème du Bernard l'ermite ? C'est que son corps est tout mou. Donc derrière l'apparence de robustesse, de force, d'autorité, avec sa carapace derrière et puis ses pinces. Son corps est tout mou, parce qu'il vit comme un ermite dans sa danière. Est-ce que vous voulez avancer avec Dieu? Est-ce que vous voulez être utile entre les mains de Dieu? Alors acceptez que Dieu fasse le manassé dans votre vie, vous apporte la guérison du cœur, vous fasse oublier. Oublier est un mot général. Vous ne pourrez jamais oublier votre passé. Mais ce n'est pas l'entretenir, c'est ça qu'il faut faire. Ne pas entretenir votre mal-être. Sinon, ça sera toujours récurrent dans votre vie. Jour après jour, vous vivrez votre 14 juillet. Alors pour les autres, ça sera la fête, et puis pour vous peut-être aussi, ça sera la fête, on dira, ouais, pour cacher votre misère. Or, Dieu ne veut pas que vous persistiez dans cet état d'esprit. Joseph va prendre une décision qui était personnelle, en fait. Et personne ne pouvait prendre sa place. Il ne pouvait s'y soustraire. Il fallait qu'il passe par là. C'était une décision ferme à ne plus subir les souffrances passées, à ne plus entretenir les souffrances du passé. Et c'est là aussi votre décision que vous devez prendre, et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle le service pour Dieu, pour vous, est bien tarde. Parce qu'il vous faut accepter et prendre cette décision dans votre vie. Dieu, ce qu'il vous a dit, Dieu ne se repent pas ni des appels, ni des dons qu'il fait. Et peut-être le fait que vous ne soyez pas encore, eh bien, engagé avec Dieu dans le service, c'est parce que c'est vous qui freinez. Et Dieu attend. Et Dieu attend. Et rappelez-vous que ce que Dieu vous a dit un jour, je répète, Dieu ne se repent pas des appels et des dons qu'il fait. Et ce que Dieu vous a dit un jour, il veut le faire. Mais ça ne dépend que de vous. De dire, Seigneur, eh bien, j'accepte de ne plus entretenir ma misère du passé. Je veux prendre de l'avant, je veux aller de l'avant. Accepter de ne plus entretenir ces vieux souvenirs qui vous font tant souffrir. Accepter de ne plus retomber dedans dans les moindres occasions. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une décision franche, nette et définitive en disant c'est terminé. Je ne veux plus me laisser absorber par tel et tel souvenir, par telle et telle chose qui vient anéantir mon moral, qui vient anéantir même ma vie spirituelle, voire même anéantir parfois mes relations conjugales, mes relations avec mon épouse, mes relations avec mon conjoint, mes relations avec même mes enfants, même professionnels. De dire, eh bien Seigneur, j'ai besoin et je veux prendre cette ferme et nette décision. Soyez des hommes et des femmes virils. C'est-à-dire mon oui est un oui, mon non est un non. Et de ne plus vous laisser battre en brèche en disant, ben voilà, oh. Dire maintenant c'est terminé. Ça n'enlèvera pas votre passé, ça n'effacera pas votre passé. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que l'on vous a fait, c'est passé. Et peut-être que plein de gens ne savent pas ce que vous avez vécu. Et puis après tout, c'est très personnel. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Peut-être même parfois le conjoint lui-même ne sait même pas ce que vous avez vécu. Et est-ce que c'est utile de lui dire? Est-ce que c'est vraiment utile? Mais ce qui est important, c'est de savoir, de prendre en compte que Dieu le sait. Il n'y a que lui seul qui pourra faire une guérison totale, absolue. Je vous ai déjà parlé de la cicatrice que j'ai sur la cuisse, là. Un coup de tronçonneuse. Voilà. Je me suis mis un coup de tronçonneuse sur la cuisse. Mais il n'y a que quand je regarde, je dis, ah oui, tiens, c'est vrai que... Ma femme, elle a été mordue par un chien. C'était le plus gentil des chiens. Un berger allemand. Il était tellement gentil que du coup, ils l'ont piqué. Elle a été mordue par le chien. Elle a un tout petit truc, là, sur la cuisse. Alors des fois, elle dit « Aïe, mon chien !» Elle ne dit pas « Aïe, ma cuisse !» Elle dit « Aïe, mon chien !» Ce n'est pas parce que vous avez vécu de grandes choses, des choses difficiles, ce n'est pas celles qui vous feront le plus souffrir. Des fois, il y a des petits pics, des petites choses qui vous restent en souvenir. et ce sont elles qui vous font plus de mal. Vous avez vu, il y a un combat, un combattant, je ne sais plus son nom, là. C'est un Africain, là. C'est un combat spécial, c'est le MMA. Voilà, les gars, ils s'entraînent toute l'année, ils sont aussi baraqués que Bruno, par exemple, que moi. Ils sont secs, ils ont les abdos, ils sont... Et le gars était prêt, hein, parce qu'il faut s'entraîner pour faire du MMA. C'est du combat, vous savez ce que c'est du MMA, bon. Et le gars, il a arrêté pour une écharde. Ils se prennent des coups de poing, des coups de pied, tout ça, il a arrêté pour une écharde. Pourtant, un uppercut, c'est autre chose qu'une écharde. Voyez, une petite chose a fait arrêter son combat. Laissez tomber cette petite chose dans votre vie qui vous fait tant souffrir. Laissez cette petite chose. Il va avoir ce second, le deuxième enfant, après Manassé, il va avoir Éphraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Éphraïm vient de la racine signifiant fructifier ou avoir des enfants. Ce n'est pas parce que Dieu a fait passer Joseph par Manassé et lui a donné Éphraïm que la vie de Joseph était simple. Hein. En fait, je crois que les vieux chrétiens, je parle des vieux chrétiens par rapport à l'expérience. Si on vient au Seigneur à 80 ans et ça fait 5 ans qu'on est converti, on n'est pas des vieux chrétiens. Je parle des vieux chrétiens, ceux qui ont commencé et qui... Je connais peu, pour ne pas dire, je ne connais aucun vieux chrétien qui n'a pas de blessure de bataille. Ils ont tous des cicatrices. Beaucoup d'entre eux, en fait, sont dans la grande humilité. Ils ne vous feront pas part de leur champ de bataille. Ils ont perdu beaucoup de batailles, entre autres. Beaucoup de batailles. Mais ils ne perdront jamais la guerre. Parce que le général en chef, c'est celui qui les a appelés. David, celui qui deviendra le héros d'Israël, pourra dire en quelques mots, en rendant à Saül ce témoignage, lorsqu'il était dans les champs, lorsqu'il voyait eh bien, une cuisse, une patte qui était prise dans les griffes de l'ours ou dans la gueule du lion, eh bien, il allait, il l'arrachait parce qu'il ne voulait pas. Il avait perdu la bataille. Hein. L'animal était mort déjà. Il y avait la cuisse dans la gueule ou entre les griffes de l'ours. L'animal était mort. Il avait perdu une bataille. Mais il persévérait, il durait. Il ne voulait pas céder. Il ne voulait pas accepter que l'animal sauvage puisse continuer à faire son festin. Il l'arrachait de la gueule du lion ou de la patte de l'ours. Et il rendra témoignage en disant en quelques mots, « C'est Dieu qui me donnait ces choses. » Vous savez ce que la valeur du scorpion, le caractère du scorpion? Vous aimez les scorpions?
Non.
À Port-de-Bouc, de temps en temps, j'en ai tué quelques-uns. À Cuba, j'étais assis, quand j'étais avec l'AEP, j'étais assis, les frères étaient en train de chanter, ou je ne sais plus, ils étaient en train de prêcher, je ne sais plus. Il y avait des gens. Et d'un seul coup, mon regard est attiré vers un truc qui... Paf! Oh. Ah, il n'a pas vécu. Hein. Ah. Et vous savez ce qu'il fait, le scorpion? Pour affronter eh bien, l'adversité. Il ne fuit pas. Il prend de face l'épreuve. Nous devons avoir ce caractère. Pas parce que c'est nous qui allons faire quelque chose. Nous sommes tellement pleins de faiblesses. Mais dire, Seigneur, eh bien, en ton nom, je veux y aller. En ton nom, je ne veux plus subir. En ton nom, je veux vivre. En ton nom, Jésus, eh bien, je veux remporter cette victoire. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, des enfants qui seront à l'écoute de Dieu. Des, je vais le dire, mais ne le prenez pas d'une manière péjorative, des vieux qui sont vieux sur leur carte d'identité, mais qui ne sont pas à la retraite, spirituellement parlant, en disant, moi j'ai toujours cette fougue, des Caleb qui disent, mais moi j'ai toujours voilà, cette force, cette niaque, ce désir Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront là et qui diront, Seigneur, sers-toi de moi. Oui, je veux, ne veux plus céder à ce que j'ai pu vivre le temps passé. Je ne veux plus vivre mon 14 juillet tous les ans. Mais Seigneur, équipe-moi, fais de moi cet homme, cette femme qui pourra rendre ce témoignage ici. En fait, Joseph, c'était un visionnaire. Joseph, c'était un visionnaire. Joseph va apporter du fruit. Il va avoir ce fruit qui va être cette guérison qui sera personnelle, une guérison qui vient tout droit du ciel, le fruit de la réconciliation avec ses frères. Rappelez-vous ce qu'il va dire à ses frères lorsqu'il va voir ses frères. Il va un peu les assister de côté un petit peu. Les frères ne l'ont pas reconnu, parce qu'en plus il avait la tenue d'un Égyptien. Et ça faisait de mémoire 17 ans qu'il ne l'avait pas vu. Et puis, il va les asticoter un petit peu, mais à un moment donné, il va y avoir réparation, réconciliation entre ses frères. Il dira même en quelques mots, c'est pas vous qui m'avez fait ce que vous m'avez fait, en fait. C'est Dieu qui l'a permis dans ma vie. Et Dieu peut permettre certaines choses dans notre vie pour sauver nos familles. Pas que nous soyons nous des sauveurs, mais que Dieu se serve de nous pour amener l'évangile dans nos familles, dans l'entreprise, auprès des collègues de travail. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont tout petits en âge et qui sont tellement malheureux. Des enfants qui ont 10, 20 ans, 30 ans de plus que leur âge. Ils ont vécu des choses tellement difficiles, douloureuses dans leur vie. Et qui cherchent des hommes, des femmes qui ne profiteront pas d'eux. Des hommes et des femmes qui seront des exemples, des pères et des mères spirituelles pour ces petits. Il y a combien de vieillards parmi nous qui vivent avec le temps passé? J'ai cette image, cet exemple de cette femme, à l'esprit 80 et quelques années. Elle me rappelait des souvenirs que lorsqu'elle avait, je crois, 7 ans. 73 ans qui se sont passés, qui se sont écoulés. Elle en parle comme si c'était encore hier. Il y a des choses à régler, mes frères et sœurs, dans nos vies. Si nous voulons avancer, il faut accepter que Dieu vienne penser, réparer notre passé. Ça n'enlèvera pas le souvenir de notre passé, mais Dieu va créer en nous un état d'esprit qui sera différent. Et qui est le mieux placé pour parler des choses de ce genre que ceux qui l'ont vécu? Alors Dieu veut se servir de vous. Je répète pour la troisième fois, Dieu ne se repent pas des appels et des dons qu'il fait. Ce que Dieu vous a dit un jour, il veut l'accomplir. Mais il faut accepter avant tout que Dieu fasse ce qu'il doit faire dans votre vie. N'essayez plus par vous-même. Ne défilez plus le 14 juillet. Ne faites plus la fête en disant, voilà ce que j'ai vécu. Que ce ne soit pas un sujet de gloire pour vous non plus en disant, vous savez, des fois on entend des témoignages, on se demande si c'est pour la gloire de Dieu ou si c'est pour la propre gloire. Moi j'ai fait 15 ans de prison, j'ai fait ci, mais on s'en moque de ça, hein, on n'a pas besoin de le savoir ça. C'est de savoir ce que Dieu a fait dans notre vie. Et je termine. Je disais tout à l'heure que Joseph était un visionnaire. Joseph avait tellement cette confiance en Dieu qu'il savait que Dieu allait accorder la paix. Même s'il ne saisissait pas tout du plan de Dieu pour sa génération, pour l'avenir de sa famille. Qui aurait pu, Joseph, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu imaginer un seul instant que 70 membres de sa famille deviendront environ 2 millions d'individus qui sortiront d'Égypte? C'est pas pensable. À moins qu'il y ait une révélation de Dieu, bien sûr. Mais est-ce que l'on connaît de l'histoire de Joseph? Ça ne lui a pas été révélé. Mais regardez, dans Genèse 50, verset 22, il est écrit, « Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, les fils de Makir, fils de Manassé, Nakir sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera. » Et vous fera remonter, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et Exode 13, 19, il est écrit, Moïse eut pris avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os loin d'ici. C'était un visionnaire. Il était convaincu, il savait que Dieu allait apporter, allait donner à Israël cette terre promise. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à être des visionnaires, à avoir cette vision en disant, Seigneur, je crois que tu peux toucher le cœur de ma famille. Je crois que tu peux toucher la ville de Martigues. Je crois que tu peux toucher la ville de Port-de-Bouc, de Fos, pour ce qui nous concerne, nous. Mais Istres, Miramas, voilà. Toutes ces villes qui sont dans le secteur, mais même en France, et même dans le monde, moi je crois que Dieu peut, avant qu'il ne soit de retour, pousser à faire revenir tous ceux et toutes celles qui, à un moment donné, ont lâché la main de Dieu, pour une raison qui ne nous regarde pas. À pousser tous ceux et toutes celles qui sont à la recherche de Dieu, d'un cœur sincère et vrai. Hier, j'ai des témoins de Jéhovah qui sont venus me voir. Ça fait deux fois. Maintenant, il a compris que ce n'était plus la peine. Non, mais j'étais très gentil. Hein, parce que si demain, vous avez des témoins de Jéhovah, soyez respectueux. Hein. Il ne s'agit pas de venir en disant, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Parce que là, vous ne gagnez pas les gens, ces gens-là. Moi, j'aurais dit. Moi, je crois que dans les religions, il y a des gens qui sont très sincères. Mais vous avez été bernés par des fausses prophéties. Voilà. Et je lui ai dit, vous m'avez l'air très sympathique. Et pas pour mentir, j'étais sincère. Voilà. Et les gens, ils ont besoin de rencontrer le Seigneur. Et tous ces gens qui sont à la recherche de Dieu, regardez, moi, je voulais devenir moine. Mais j'étais sincère dans mon erreur. Mais si je n'étais pas tombé sur des gens qui m'avaient parlé d'évangile, ben, je serais moine. Voilà. Donc les gens ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Les gens ont besoin d'hommes et de femmes qui leur parlent de Dieu. Les gens ont besoin non pas de donneurs de leçons. On est fatigué d'avoir des donneurs de leçons qui, comme moi me faisais quand j'étais gosse, fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais. Voilà. Mais les gens ont besoin d'hommes et de femmes qui ont les pieds sur terre mais la tête et le cœur au ciel. Des hommes et des femmes qui savent de quoi ils parlent, qui sont au courant et qui ont un cœur, les âmes, les hommes et les femmes. Les gens sauront si vous les aimez ou pas. Les gens le ressentiront. Si c'est juste par intérêt, parce que ceci ou cela, parce que vous êtes, ils trouvent un intérêt chez vous. Mais les hommes et les femmes ont besoin de se sentir aimés, pas dans l'amour, de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous aide. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, s'il vous plaît, mes frères et sœurs.